Aujourd'hui, pour la prédication, on va étudier un thème en essayant de le parcourir dans l'ensemble de la Bible et en l'appliquant à notre propre vie et à notre Église. Notre, nous sommes ici, c'est notre Église, mais sinon, l'appliquer dans la vie de tous nos frères et sœurs et l'appliquer dans les endroits où est-ce qu'ils sont réunis. Le thème que j'ai choisi, généralement, soit fait peur, soit fascine les gens. Et bien souvent les deux même. Ça fait peur ou ça fascine les gens. Le thème du message, il sera les diables. Pour commencer, pourquoi ce thème? Eh bien, je me suis rendu compte qu'on a souvent pas mal de lacunes en ce qui concerne les connaissances bibliques au sujet du diable. Et parfois même on croit que des choses sur le diable sont bibliques. Il nous enseigne que des choses sur le diable sont bibliques, tandis que c'est de la croyance populaire. Je m'en souviens quand j'étais enfant, qu'on me disait, attention, hein, tu vas aller en enfer. Tu sais qu'il y a un enfer, c'est le diable. Hein, avec les cornes, il est tout rouge, avec une fourche, avec les pieds de bœuf, je sais pas. Hein, tu vas là, il a la fourche. Et tous ceux qui sont en enfer, il les prend, il les tourne, il les retourne et tout ça. Voilà. Ça, c'est la croyance populaire. Si vous voulez, la prédication de ce matin, c'est une prédication thématique. C'est-à-dire qu'on va parcourir le thème du diable dans un peu toute la Bible, sans creuser un texte en particulier, hein. Premièrement, on va voir les diables dans la Bible. Quand on étudie ce qui concerne les diables, il y a un truc qui est frappant. C'est-à-dire que la Bible, il n'en parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Presque pas. Et pourtant, c'est un adversaire. Et vous savez, la première chose qu'on doit faire avec un adversaire, c'est quoi? C'est de le connaître. C'est de savoir comment il agit, quelles sont ses possibilités et tout ça, avant d'aller au combattre, car nous sommes des combattants. Nous devons connaître l'adversaire. Eh bien non, la Bible en parle très peu. Pourquoi? Je me suis demandé pourquoi il en parle très peu. Et encore une fois, comme en continuant aussi l'étude de ce matin, je cherchais dans la Bible. Et la Bible, elle m'a répondu, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, « L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Pourquoi il n'en parle pas? Ou presque pas? Mais parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. La Bible nous parle d'un Dieu unique, d'un Dieu qui est tout. Un Dieu qui fait tout. Un Dieu qui, il est constamment là. C'est lui le boss. Et pas le diable. Le diable, il est à des années de lumière de Dieu. La première chose à savoir quand on s'intéresse à ce thème du diable, hein, et c'est important, encore une fois, parce que ce diable, il peut fasciner ou sinon il fait peur. Mais c'est de savoir que le diable, par rapport à Dieu, il n'est rien. C'est un peu comme, il a dit les frères, ce virus qui sévit. Dieu, il contrôle tout. Dieu, il contrôle tout. Hein? Et c'est quelque chose, parler trop du diable, c'est pas glorifier Dieu. Et pourtant, il y a dans les églises, même des pasteurs, ils parlent continuellement du diable. Oui, faites attention au diable et tout ça. Il faut parler de Dieu, pas du diable. Pas du diable. Il y a eu quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, oui, je suis assailli par le diable, j'arrive pas à m'en délivrer. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaye de... T'as pas essayé, tourne-toi vers le Seigneur. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle tout. Voilà pourquoi c'est, voilà pourquoi la Bible il parle très peu du diable. Pourquoi? Parce que nous devons nous concentrer sur Dieu. Concentrer sur Dieu. Et nous ne devons pas avoir peur de lui. Bien sûr, il est là. La Bible en parle. Donc il nous montre une chose, ce que le diable existe. Que le diable est réel. Mais il ne faut pas avoir peur de lui. Car tout est sous contrôle. Et il faut avoir conscience, oui, en tant que chrétien, de ce qu'il est, de ce qu'il va faire, surtout son but. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut que nous ayons. Il y a Baudelaire, il a écrit, il dit, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. On croit aujourd'hui que dans ce monde, il y a une lutte entre Dieu et les diables. Il n'y a pas de lutte. Tout ce que le diable fait, c'est permis par Dieu. Sinon, il ne fera rien. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il demande la permission. Parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Hein? Le diable, qui est-il, ce diable? Là aussi, hein? Que nous dit la Bible sur ce diable? Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, il dit que les démons, ils sont des anges qui se sont révoltés, qui ont péché contre leur Créateur. Et dans Jude 6, il nous dit quelque chose, il nous a dit qu'ils sont réservés pour le jugement. Ils sont réservés pour les jugements. Hein? C'est-à-dire que ces anges-là, c'est des esprits que Dieu il a créés avant toute chose, hein, parce qu'ils ont été créés avant nous. Hein? Il nous a dit que lorsque Dieu il créait la terre, il y avait ses fils qui applaudissaient. Voilà. Pourquoi? Parce que les belles choses que Dieu il faisait. Et dans Ézéchiel, il nous a dit qu'il y avait un archange, hein, qu'il était de toute beauté, qu'il dirigeait la louange de Dieu. Il était là pour diriger les esprits de Dieu pour sa gloire. Mais cet ange-là, il s'est élevé. Dans la Bible, il nous est marqué qu'il c'est l'astre brillant. C'était un astre brillant. Hein? Et donc, un jour, il s'est rebellé, il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu, il l'a châtié. Voilà pourquoi c'est très important. On entend, aujourd'hui, on donne des noms au diable, comment il s'appelle. Il n'a pas de nom, mais on lui donne des noms qui manifestent son caractère. Le mot Lucifer, le mot Lucifer n'est pas biblique. Hein. C'est Jérôme qui lui a donné cela parce que Lucifer, hein, en latin, c'est astre brillant. Alors on l'appelait Lucifer. Il y a même une série à la télé qui s'appelle Lucifer. Hein. Lucifer, le diable qui vient ici bas sur terre, il fait du bien, il fait ce qu'il veut, voilà. L'imagination de l'homme. Il y a beaucoup de noms qu'on lui donne. Le premier nom, c'est Satan. Et aussi, Satan, hein, c'est le mot hébreu. Et il y a le mot en grec, que c'est diabolos. Les diables, il est venu. Chez nous, c'est les diables. Hein. Satan et diable, ce sont deux mots qui décrivent le chef de ces deux mots. C'est le chef, ils le décrivent. Ils le décrivent. Mais il y a d'autres noms. L'accusateur, les diviseurs. Satan, ça signifie l'accusateur. Et les diables, c'est les diviseurs. Pourquoi diviseurs? Parce que le diable, hein, il veut qu'une seule chose, diviser ceux qui font confiance en Dieu. Et vous savez, le diable, il a une haine terrible contre les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous l'avons quitté. Nous étions esclaves du péché, du diable. Mais nous l'avons quitté parce qu'on a trouvé la paix et le bonheur en Jésus-Christ. Et nous l'avons quitté. Et vous savez bien que même ici-bas, hein, dans l'humanité, hein, lorsque quelqu'un nous quitte, hein, on n'est pas content. Hein. Et alors il fait tout pour que nous puissions souffrir. Et il y a d'autres noms qui sont donnés à cet esprit, parce que c'est un esprit. Et qui dit esprit, il dit on ne le voit pas. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de l'imaginer. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et tout cela pour nous faire peur. Pour nous faire peur. Mais encore une fois, nous ne devons pas avoir peur du diable. Pourquoi? Parce que nous avons la protection de Dieu. Et en plus, Dieu, en sachant cela, il nous a donné le moyen de nous défendre. Hein? Il nous a préparé une cuirasse que nous devons revêtir pour éteindre les dards enflammés de notre ennemi qui est Satan. Quel est le but de Satan? Et c'est là qu'on lui donne beaucoup de noms qui sont tirés de la parole, bien sûr. Hein. Il est appelé le malin. Le malin dans 1 Jean 2, 13 et 14. Il dit, mais Jean, il nous montre ses malins, mais il nous a dit dans ce verset, vous avez vaincu le malin. Bien sûr, c'est pas nous qui l'avons vaincu, mais c'est Jésus-Christ. Mais nous vivons de la victoire de Jésus-Christ. Car c'est lui qui a vaincu, mais nous nous vainquons par et à travers lui. Le malin. Et c'est ce qu'il a fait avec nos premiers parents. Le malin. Et quelle est sa première chose qu'il a fait? Il a mis en doute ce que Dieu a dit. Mais Dieu a-t-il vraiment dit? T'as mal compris, Ève. Dieu n'a pas dit ça. Voilà, c'est un malin. Et on le constate chacun de nous dans notre propre vie, n'est-ce pas? Des fois, il y a des tentations que c'est difficile à sortir. Pourquoi? Parce que il nous connaît. Il connaît ce qu'on aime. Il est malin. Il nous met tout ça devant. Un autre mot qu'on lui donne, c'est le tentateur. Le tentateur. Il est là, dans Matthieu 4, 3. C'est la tentation de Jésus. Et pourtant, c'est Jésus, hein. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et pourtant, il était là pour le tenter. Après avoir passé 40 jours dans le désert, il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il tente Et il arrive des fois, avec Jésus, il n'est pas arrivé. Ça, c'est pour nous montrer que la seule façon d'éviter toute tentation du diable, c'est de nous tourner vers la parole. Et vous savez, il est malin et il tente. Et encore une fois, surtout avec le chrétien. Et des fois, on n'y pense pas et on y tombe. Je vous ai déjà raconté mon histoire chez l'éclair. Hein. Je vais chez l'éclair à l'entrée, un beau tapis. Ah, vous me direz, chez l'éclair, moi je l'ai trouvé beau, hein. Je sais pas pourquoi. C'est un peu comme Ève, il a regardé, il a vu que l'arbre il était beau, n'est-ce pas? Voilà. Alors j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai plié les tapis, je l'ai pris, toujours en regardant, parce que... Et je l'ai mis dans les coffres de la voiture. C'était dans les coffres, hein? Personne m'a vu. Je m'assois. Alors c'est là, voilà, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as fait, Aldo? T'as volé. Et j'ai écouté. Qu'est-ce qu'Aldo il a fait? Il a ouvert les coffres, il a pris les tapis et il l'a remis à la place. Il a risqué de me faire prendre là. Hein. Pourtant, il était bien dans mon coffre. Hein. Pour vous dire que des fois, il arrive à nous faire tomber, mais grâce à Dieu, nous avons l'Esprit qui est en nous. Et je suis sûr qu'il vous est arrivé aussi lorsque vous avez fait quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Qu'à l'intérieur de vous-même, il y a cette voix qui vous le dit. Mais tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est bien ce que tu as fait? Et c'est là que on réfléchit. Mais c'est un tentateur. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit aussi dans Jean 8, il dit, c'est le père du mensonge. Le père du mensonge. Il dit, vous avez pour père les diables. Lui, il est dans le mensonge. Il ne pratique pas la vérité. Il nous montre les choses comme si c'est quelque chose de merveilleux. Encore un peu avec Ève. Il a dit, voilà, mange, ton esprit il va s'ouvrir. Hein? Ta connaissance, tu vas connaître les biens et les mals. Et Dieu lui a dit, si tu manges, voilà, tu mourras. Mais non, vous ne mourrez pas. Au contraire, ton intelligence va s'accroître. Tu vas connaître les biens et les mals. Et il est le père du mensonge. Et encore une fois, il arrive. Il nous a dit aussi qu'il est les diviseurs, les diables, les diviseurs. Il fait quoi, les diables? Il essaie de nous diviser, de nous éloigner de Dieu. Il essaie aussi dans des églises de nous diviser, oui. De former, comme on a vu dans l'épître aux Corinthiens, de former des clans. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Céphas, moi, je suis d'Apollos, et moi, je suis de Paul, moi, je suis de Christ. Voilà. Il essaie de nous diviser. Et vous savez que lorsqu'on appartient à un clan, les choses sont difficiles. Il y a Roland qui appartient au clan de Paul, moi, je suis du clan d'Apollos. Ah, Roland, il prêche. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Il essaie de diviser. C'est son rôle. Vous savez, Satan, le diable, il sait qu'il a les jours comptés. Il le sait. Et pourtant, il fait tout pour que les gens ils puissent le suivre. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Ils l'ont dit à Jésus, « Es-tu venu nous perdre avant le temps ?» Ils ont les jours comptés. Satan, il est aussi l'accusateur. L'accusateur. Il nous accuse devant Dieu. Dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, il nous le montre en train d'accuser les souverains sacrificateurs. Et il dit, mais regarde-les, tous ces vêtements, ils sont sales. Et nous, il nous le dit pareil, mais regarde, Aldo, regarde ce qu'il fait. Il a péché là, il a volé là, il a fait ça. Est-ce que c'est ça ton fils? Il nous accuse devant Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Job. Vous connaissez l'histoire de Job, hein? Il lui a dit, où tu étais? Ah, il a dit, ouais, je me baladais sur la terre, à droite, à gauche. Et Dieu lui dit, mais tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre et juste. Oh, s'il est comme ça, c'est parce que tu lui donnes trop de choses, trop de bénédictions. Mais enlève-lui ce qu'il a, et tu vas voir ce qui va arriver, s'il ne va pas te laisser tomber. Et vous savez ce qui est arrivé à Job. Hein? Et ce n'est pas Job, ce n'est pas une petite malheur qui lui est arrivé. Les choses y sont arrivées les uns après les autres. Hein? Les uns après. Au point que sa femme, il a dit, mais maudit Dieu. Mais Job, il a dit, ben voilà. Dieu m'a donné, et Dieu m'a repris. Mais il est là pour nous accuser. Et lorsqu'il nous accuse, nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est là qu'il y a notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Et c'est là qu'il vient et il nous dit, non, il m'appartient. Et il nous a dit, lui-même nous l'a dit, personne ne les arrachera de ma main. Personne. Car un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, il a cet esprit en lui qui lui dit qu'il est sur une mauvaise pente. Il faut qu'il revienne. D'ailleurs, l'appel dans l'Ancien Testament, vous regardez, hein, il y a un appel qui se répète constamment. Et c'est Dieu, l'Éternel, qui dit, revenez à moi. S'il dit ça, revenez, c'est que se sont éloignés, n'est-ce pas? Ça, c'est le grand amour de Dieu. Comme il a dit notre frère. Hein? Et ensuite, il nous a dit aussi que c'est le prince de ce monde. Prince de ce monde, dans Jean 12. Et vous dites, comment Satan est le prince de ce monde? Mais oui, regardez autour de vous le monde, de quelle façon il se comporte. Pourquoi? Parce que Satan est là. Ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Et donc, ils obéissent à leur père. Et leur père, c'est Satan. Jésus, il a dit, vous avez pour père le diable. Et lorsqu'on appartient au diable, on fait ce qu'il veut en tant que tentateur. Voilà pourquoi tous ces noms que la Bible lui donne nous apprennent quel est le but de Satan, de cet esprit. Il veut séparer les humains de leur Dieu. Et ça, il a commencé avec nos parents. Hein. Ils étaient en communion avec Dieu dans le désert, dans le jardin. Il nous a dit que Dieu s'est promené dans le jardin. Voilà. Dieu s'est promené dans le jardin. C'est une idée, c'est de l'allégorie, ça aussi. Hein. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il nous a dit que le Juif, lorsqu'il voyageait, il devait avoir toujours une petite pelle avec lui. Vous savez, à cette époque, pour faire les besoins, hein, il n'y avait pas comme nous. Hein. Et alors, ils étaient dans la nature, et lorsqu'ils faisaient leurs besoins, ils devaient le couvrir. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils disaient, Dieu se promène dans la terre qu'il a créée. Ce que Satan y veut, c'est séparer, diviser, pour faire quoi? Pour dominer sur eux. Voilà pourquoi la Bible dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y a, que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Satan, il est là pour un temps. Satan, il est là pour nous éprouver. Voilà pourquoi nous devons avoir cette confiance nuit en Dieu. Voyons maintenant quels sont les moyens qu'il dispose. Voilà, là aussi, c'est... Maintenant que nous savons quel est son but, voyons, la Bible nous dit ce dont il est capable ou pas. Avant tout, la Bible affirme que seul Dieu est omniprésent et omnipotent. Le diable, il n'est pas présent partout. Et il n'est pas omnipotent. Il ne peut pas tout faire. Le diable, il ne connaît pas l'avenir. Il ne peut pas lire dans nos pensées. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est Dieu qui décide. Dieu n'est pas limité. Le diable, il est limité. Pourquoi? Parce que le diable, c'est une créature de Dieu. Mais Dieu n'est pas limité. Il peut être partout à la fois. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, n'est-ce pas? Il est ici, parmi nous. Il est à Haïti, il est en Amérique, il est en Italie. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu, il a créé les temps. Mais Dieu, il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais Satan, non. Lui, il n'est qu'à un endroit à la fois. Mais par contre, il a tous ses anges qui se sont rebellés avec lui. Et ces anges qui se sont rebellés avec lui, ils sont partout. Ils sont partout. Une fois, à la fois. Hein. Voilà pourquoi il peut les utiliser. Sa force, c'est là. Sa force, c'est là. Le diable est limité. Mais la Bible montre même que son pouvoir est limité. Encore une fois, dans Job, on l'a vu. Dieu lui a dit, touche-le, mais ne touche pas sa vie. Et il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait rien faire. Le diable, il ne peut pas tout faire. Parce que c'est une créature. Et alors, c'est la question qu'on peut se poser, c'est, et dans notre vie? Dans notre vie et dans notre Église. Nous devons savoir que dans notre vie, dans notre Église, lorsque Dieu protège, lorsque Dieu garde, lorsque Dieu bénit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui puisse nous arriver. Rien. Parce que personne, il peut lutter avec Dieu. Personne. Dieu, il laisse faire, mais il a tout sous contrôle. Il a tout sous contrôle. Lorsque Dieu nous promet une chose, cette chose va s'accomplir. Lorsque Dieu nous pardonne, nous donne, nous promet les pardons à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, si quelqu'un nous dit, qu'est-ce qui va t'arriver après la mort? On lui dit, on va au paradis, on va auprès de notre Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que Dieu, il me l'a dit. Il m'a dit que si j'ai Jésus-Christ, j'aurai le pardon de mes péchés, j'ai la vie éternelle. Et comme il a dit les frères, et la Bible le dit, pas seulement les frères, mais il dit qu'un jour, Jésus, il va revenir, il va nous prendre. D'ailleurs, la dernière promesse de Jésus, c'est ça, je reviens bientôt. Et l'Église répond quoi? Maranatha, oui, viens Seigneur. C'est ça notre espérance. Lorsque Dieu il nous promet le salut, c'est que nous sommes sauvés, et pas pour un temps, mais pour toujours. Bien sûr, nous pouvons tomber dans les péchés, oui, et nous tombons dans les péchés, n'est-ce pas? Mais nous avons cette promesse que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parce que Dieu nous connaît. Et s'il a dit ça, d'ailleurs il a dit, si quelqu'un dit qu'il ne pèche pas, il est menteur. Il est menteur. Voilà pourquoi Dieu, il nous a promis la vie éternelle et il nous la donne. Voilà pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui, si je meurs, je rentre dans cette vie éternelle. Nous allons tous mourir. Mais c'est la vie physique, ça. Pour nous qui avons Jésus, lorsque nous mourons, nous rentrons dans la vraie vie. Comme je dis toujours, aujourd'hui, on ne vit pas le vrai salut. Oui, bien sûr, nous avons le salut en Jésus-Christ. Mais nous sommes ici-bas, dans la souffrance, dans les péchés. Mais le vrai salut, c'est lorsque nous serons avec lui, dans le ciel. Pas de souffrance, pas de péché. Rien. Nous serons dans la joie perpétuelle. Et on peut se dire, quelles sont les promesses de Dieu? Eh bien, la promesse que Dieu nous fait, c'est que si on accepte Jésus-Christ, si on se confie en lui, Dieu, il nous dit, tu es sauvé. Tu ne passeras pas par le jugement. On l'a vu mercredi. Bien sûr, tous les chrétiens, ils vont passer par le jugement, le tribunal de Christ. Mais si nous sommes dans le tribunal de Christ, ce n'est pas parce que nous sommes perdus, mais c'est parce que nous sommes sauvés. Le tribunal de Christ, le Seigneur, il va juger nos œuvres. Le Seigneur, il nous donne des talents. Il nous donne des moyens de pouvoir accomplir sa parole. Et alors, nous devons les utiliser. Au tribunal de Christ, voilà, c'est exactement ce qui va nous arriver. Il y a des choses, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, qui représentent toutes les œuvres que nous avons faites pendant notre vie et qui ont été faites pour la gloire de Dieu. Sinon, il y a aussi des œuvres représentées par les foins, la paille. Ces choses-là, lorsqu'elles passent sous le jugement de Dieu, elles vont brûler. Il ne reste pas. Et c'est là, par rapport à ce que nous avons accompli lorsque nous sommes vivants, c'est là que le Seigneur il va nous donner des récompenses. On appelle ça des couronnes. Parce que nous sommes des rois. Hein? Alors Dieu, il nous donne des couronnes. Mais lorsque nous serons avec le Seigneur dans le ciel, qu'est-ce que nous allons faire de ces couronnes? Est-ce que nous sommes dignes de nous présenter devant Dieu avec les couronnes? Non, le seul qui est digne, c'est Jésus-Christ. Alors nous allons les enlever et les mettre aux pieds de ce Seigneur, de ce Sauveur, qu'il a tout fait pour chacun de nous. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons vivre. Oui, bien sûr, il est là, cet esprit, pour nous diviser, pour nous éloigner de Dieu. Mais si nous tenons ferme, rien et personne, il pourra. Et dans l'Église, c'est exactement la même chose. J'en ai parlé ce matin, et mercredi, on en a parlé. L'Église, si seulement nous ayons la vraie signification de l'Église dans notre cœur. Paul lui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Jésus, il a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait. Et il nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que nous devons donner le meilleur pour l'Église. Pas donner quelques temps comme ça, mais nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en donnant le meilleur, nous le donnons à Dieu. Et ce que nous faisons pour Dieu, c'est le meilleur pour lui. Peut-être que nous regardons ce qu'une sœur ou un frère, il fait, on dit, oh, il fait pas grand-chose. Mais ce peu qu'il fait pour Dieu, c'est le meilleur. Et ce qui compte, c'est ce qu'il voit les pasteurs ou les conseils. C'est ce qui compte, c'est que ce que Dieu voit. Il faut donner le meilleur. Et si nous donnons le meilleur, l'Église, il va marcher comme il faut. Et cet esprit qui nous entoure, il va battre les ailes. Car il nous est dit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et c'est quoi l'Église? L'Église, c'est tout le rassemblement de tous les rachetés, de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, tous ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang béni de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une organisation. C'est un organisme vivant. Pourquoi? Parce que nous sommes des pierres vivantes. Et chaque fois que nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons une pierre, nous étions morts, mais nous devenons des pierres vivantes. Le Saint-Esprit, il les réunit ensemble, et c'est là que ça va ressortir, cette Église, dans laquelle Jésus, il a dit que rien, il pourra faire obstacle à l'Église. Et pour terminer, un verset qu'on connaît très bien et qu'on nous répète toujours pour qu'on puisse en retirer du courage, dans Romains 8, 37 et 39, il dit, « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, j'en ai l'absolue certitude. En avons-nous la certitude absolue? Paul, il en avait. J'en ai la certitude absolue. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors les diables, faut-il avoir peur? Non! Pourquoi? Parce que le diable, il est sous le contrôle de Dieu. Faut-il faire attention à lui? Oui! Parce qu'il est, plus fort que nous. Mais nous avons une force extérieure, et c'est Jésus-Christ. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, ne regardons pas tout ce que les gens ils peuvent nous dire, mais tournons nos regards vers Jésus-Christ. Ayons les yeux fixés sur Jésus, et toutes choses, ils pâliront peu à peu. Que Dieu nous aide. Amen.